CFM Villefranche, le mag.
Depuis près de 30 ans, derrière le hublot, invente en Aveyron et bien au-delà, une autre manière de faire de la culture, une culture qui surgit là où on ne l'attend pas, sur un chemin de Compostelle, dans un village, sur une place publique, dans une cour, en pleine nature, sur un quai, ou juste dans un salon d'une personne âgée. À travers des projets devenus emblématiques comme Fenêtres sur le paysage, le service d'art à domicile, les résidences d'artistes, ou encore une programmation itinérante souvent surprenante, poétique et inspirée, l'association derrière le hublot fait dialoguer les habitants, les paysages et les imaginaires. Et justement, côté imaginaire et insolite, un étonnant rendez-vous nous attend pour cette fin de semaine avec le spectacle Mortel, Jus de Mortel. Après avoir programmé la performance du collectif Captain Boomer, tout le monde se rappelle du cachalot échoué sur les quais de Villefranche. Et après le spectacle Décrochez-moi ça du cirque sous chapiteau, un instant suspendu, poétique, ça c'était mi-décembre l'année dernière, l'association derrière le hublot nous revient avec une proposition pétaradante, un infernal bazar mécanique et musical qui fait revivre cette spectaculaire attraction foraine qu'est le mur de la mort. Bonjour Fred Sancerre.
Bonjour.
Toujours un plaisir d'accueillir l'association derrière le hublot dans les studios. Avant de parler de ce spectacle, c'est un petit peu l'objet de notre entretien. Derrière le hublot, c'est 30 ans cette année. L'association créée en 96, issue d'un groupe de jeunes dont vous faisiez partie. Est-ce que vous vous souvenez encore de l'esprit des débuts, de ce qui vous animait? Et puis, comment définiriez-vous l'ADN de Derrière le hublot aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Vous avez grandi aussi avec l'association.
Je pense qu'il y a 30 ans, quand on crée Derrière le hublot, d'une part, on ne sait pas que Derrière le hublot existera encore 30 ans après. Je pense qu'on ne s'y projette pas. Mais on est animé d'un désir, et je pense que ce désir est le même aujourd'hui, c'était de partager des œuvres, des désirs d'artistes, de la poésie, des langages symboliques avec nos amis, nos parents, nos voisins. Voilà. Et donc, je pense que déjà, on avait conscience que ce qui nous touchait le plus quand on voyait des artistes, c'était quand on les voyait dans des endroits où on ne les attendait pas. Voilà, potentiellement l'espace public, la rue. Et puis quand ça venait nous chercher un peu et nous remuer un petit peu, voilà, nous on était une génération qui avait été marquée par la musique rock et punk et par le théâtre de rue avec la proximité avec le festival d'Aurillac à l'époque et des grandes aventures comme le Cargo 92, ce cargo qui traverse l'Atlantique pour aller en Amérique du Sud en 1992 et qui embarque à son bord la Manon Negra, le Royal Le Luxe et quelques autres artistes qui après sont devenus des artistes de premier plan au niveau français et international. Voilà, et ça nous a profondément marqué, et je pense que ça, je crois que ça nous tient encore d'aller avec des artistes là où on ne les attend pas, et de parler aux gens avec qui l'on vit, et surtout ce qui nous animait aussi, c'était de pouvoir vivre sur ce territoire, et d'y voir et d'y accueillir toute l'année des artistes, et ça on continue à le faire, donc voilà, je pense qu'on est toujours fidèle à cette énergie-là. Après, ce qui a changé, je pense qu'on a grandi, on a un peu vieilli aussi. Donc, je pense que on a grandi et on a appris à faire en grandissant. C'est-à-dire que le projet, on a appris à le faire et on apprend encore à le faire chaque jour. Ça veut dire, quand je dis ça, que peut-être à des moments, il se perfectionne, mais à d'autres, on fait aussi des erreurs peut-être. Hein. Du coup, on avance qu'à un cas. Et c'est jamais un long chemin tranquille. Et puis après, quand je dis qu'on a vieilli, c'est que peut-être on sent un peu plus qu'il y a 30 ans la fatigue nous tomber dessus quand on enchaîne des grosses saisons. Et effectivement, sur Derrière le hublot, en tout cas, on a cette habitude aussi d'enchaîner des grosses saisons, d'aimer les événements, d'aimer les choses qui vont marquer le territoire. Donc on ne s'économise pas dans le travail et dans l'énergie qu'on développe pour tout ça.
Une ferveur intacte, c'est ce qu'on peut entendre.
En tout cas, aujourd'hui, l'équipe qui est mobilisée autour du projet de Derrière le hublot, elle est animée de cette ferveur-là. Donc, elle a du désir, elle a de l'envie, elle est enthousiaste et enthousiasmée par ce qu'on y fabrique et ce qu'on échange et ce qu'on essaye de faire tous les jours avec des quantités de gens, de partenaires et d'artistes. Ouais.
Vous avez réécrit le projet, vous vous questionnez tous les ans sur l'avenir de l'association. On l'a dit, la dernière fois qu'on s'est croisé en studio, c'était au mois de septembre-octobre l'année dernière. Vous êtes en train de négocier aussi un virage, une nouvelle peut-être manière de fonctionner, même si vous avez toujours été et vous êtes toujours inscrit dans l'itinérance, c'est un peu plus marqué peut-être.
Je pense que le projet Derrière le hublot, il a toujours été itinérant. mais avec un port d'attache très identifié. Je pense qu'aujourd'hui, on est itinérant. Voilà. Et on y prend beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et du plaisir parce que cette itinérance-là, elle a renouvelé aussi le réseau des partenaires.
Et des publics.
Des publics. Et finalement, malgré. Ça fait peur. Hein, voilà. C'est-à-dire que quand on a quitté le port d'attache, on a eu peur. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une joie. Voilà, et je pense que l'énergie de l'équipe aujourd'hui, elle est portée aussi par l'accueil qui nous est réservé, par les publics qui sont là et par les partenaires qui nous ont tendu la main et les bras pour nous accueillir dans leur territoire et dans leur commune ou communauté de communes. Donc oui, ça va bien. Ouais.
30 ans, vous allez célébrer ou c'est pas trop votre genre? Non, on laisse ça à d'autres, des bougies, des...
On avait célébré les
25
ans. Ouais. On avait célébré les 10, mais je sais pas ce qu'on avait fait. Ouais. On avait célébré les 20 en faisant un film avec le Petit Théâtre de Pin à l'époque. Mmh, un festival qui durait 3 semaines. On y a laissé des points de vie. Voilà. Non, on va célébrer les 30 ans, mais il n'y aura pas une soirée dédiée aux 30 ans. Mais par contre, on s'est dit que l'automne, on voulait qu'il réserve des moments de fête. Parce que je pense qu'on a besoin de moments qui sont des moments où on se réunit. La fête était peut-être plus présente au départ, mais parce qu'elle était, au départ de l'association, la présence de la musique et des concerts était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Mais on a envie, sur le dernier trimestre 2026, qu'effectivement, il y a des moments pour se rassembler. Donc, on aura des concerts. On va retrouver des concerts de punk. On va faire des balles. On va faire des fêtes. On va faire des grands rassemblements. Voilà, on a envie de ça. Et c'est vrai que ça marquera les 30 ans. Et ce qui marquera aussi les 30 ans, c'est qu'on a envie d'accueillir des artistes, soit qu'on n'avait jamais pu accueillir au départ de l'association, et qui, aujourd'hui, on peut le faire. Soit en accueillant des artistes qui ont été des fois des grands compagnons ou avec qui on a envie de partager un petit bout d'histoire. Donc ça, on le découvrira bientôt, mais en tout cas, on travaille à ça.
Vous venez de nous rejoindre à l'édition du magazine d'actualité partagée avec Fred Sancerre, directeur artistique de Derrière le Hublot, l'un des fondateurs aussi de cette structure bien repérée sur notre territoire et oui, même identifiée sur le plan national. Vous avoir en studio, Fred Sancerre. C'est aussi profiter d'une expertise, d'une vaste expérience, d'un regard affûté sur le monde associatif et culturel. Dans votre petit mot d'introduction à la présentation du programme, là, de février à juillet, dans l'édito, ce qu'on pourrait appeler un édito, vous évoquez la fragilité du monde associatif et culturel, mais aussi la nécessité de préserver des espaces de débat et de liberté. Vous faites référence à une enquête de l'Observatoire des libertés associatives parue au mois de février sous le titre « Neutraliser le monde associatif ». Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire et nous dire de ce rapport ?
Moi, en tout cas, avant de dire deux mots du rapport, c'est-à-dire que je pense moi, que la démocratie et la vie sur des territoires, elle tient aussi par la vitalité du monde associatif et de l'engagement de quantités de bénévoles et d'acteurs qui font vivre malgré tout le territoire, etc. Et je pense qu'il nous faut être prudents aujourd'hui parce que, en fait, tout ce secteur-là est extrêmement fragilisé. C'est-à-dire qu'on vit tous des baisses de dotation, hein, les collectivités vivent ça, mais du coup en cascade, le secteur associatif vit des baisses de dotation des collectivités et de l'État. Bah, du coup ça crée des difficultés, ça crée des fragilités d'une part, et donc là il y a une vraie crise économique. Il y a quelque temps de ça, il y a un article ou une tribune qui était parue en disant mais le monde culturel et artistique vit un plan social silencieux. Et effectivement, on perd des quantités d'artistes aujourd'hui qui disparaissent de notre champ de vision, mais parce qu'en fait, on ne les voit pas disparaître. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'économie qui puisse permettre de les accueillir, de les faire vivre. Et du coup, il y a un plan social comme ça, avec des gens qui sortent des radars. Voilà. Et petit à petit, on voit des difficultés, des festivals qui disparaissent chaque année, des associations qui ont de plus en plus de mal à boucler leur exercice. Voilà, donc ça, il y a une petite veille, je trouve, à avoir, et puis cette conscience qu'on ne pourra pas tirer sans fin. Voilà, sinon, à un moment, tout ça ne tiendra plus. Non, et l'autre chose sur cette enquête de l'Observatoire des libertés associatives, l'enquête, elle pointe le fait que le monde associatif perd peut-être aussi des espaces pour s'exprimer, ou en tout cas, on aimerait bien que l'espace associatif soit un espace de neutralité, c'est-à-dire qu'on évite autant que possible d'avoir des positions qui ne sont pas forcément des positions partisanes, mais en tout cas qui peuvent éclairer la démocratie, qui peuvent éclairer notre espace de liberté, etc. Et l'enquête dit, attention, là aussi, à force de restreindre la liberté associative et d'inviter les associations à ne rien dire du contexte politique, du contexte géopolitique dans lequel nous vivons, en fait, on va petit à petit se couper d'espace démocratique et on enfreint des libertés. C'est ça que dit l'Observatoire. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, mais c'est quand même curieux. On est à l'aube de grandes élections aujourd'hui et peut-être qu'on n'a jamais été aussi fragilisé sur notre capacité à dire. Et je pense que dire est salutaire, en fait. C'est-à-dire que si on empêche le tissu associatif et l'ensemble de ces militants associatifs de dire des choses parce qu'on les menace de couper les subventions dans certains cas, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas notre cas, peut-être que ça l'a été, mais en tout cas, mais on doit se méfier de ça quand même. Voilà.
Fred Sancerre, directeur de l'association Derrière le Hublot, qui, parmi ses projets emblématiques, porte Fenêtre sur le paysage. Et c'est un autre anniversaire pour l'association, puisque ça fait 10 ans, en 2026, que vous portez ce projet, Fenêtre sur le paysage, pour les gens qui étaient en voyage ces 10 dernières années. C'est quoi? Comment ça s'organise? Et quel regard vous portez sur... C'est votre idée, hein, Fred Sancerre, Fenêtre sur le paysage, ouais, comme service d'art à domicile.
Mais en fait, le Fenêtre sur le paysage... Oui, 10 ans, et en même temps c'est difficile parce que 10 ans c'est le premier rendez-vous. En septembre 2016, on fait un rendez-vous dans une commune qui s'appelle Gréalou avec le parc naturel des Causses du Quercy. Et c'est le moment où on entre véritablement dans l'action, voilà, même si ça avait démarré avant. Et même si pour le public c'est rendu visible à partir de l'année 2020 avec l'apparition finalement et la création de Super Cairo. Fenêtre sur le paysage, c'est un parcours d'œuvres à ciel ouvert. Ces œuvres, elles ont une fonction, c'est qu'on peut y dormir, y faire une sieste, hein, s'y reposer, voir le paysage, y pique-niquer. C'est une série de 12 œuvres d'art refuge qui existent entre Genève et Saint-Jean-Pied-de-Port, donc sur le GR65, qui est le chemin de Compostelle. La voie la plus empruntée en France, c'est celle-ci, c'est celle qui passe par le Puy-en-Velay.
La Via Podensis.
Voilà. Et pour le moment, il y a 12 œuvres qui existent, qui sont toutes des signatures d'architectes, des hommes, des femmes, des Français et des étrangers, des gens qui étaient des découvertes, d'autres qui étaient totalement installés dans le paysage. Ils sont architectes, designers ou artistes. Et voilà, donc c'est une collection qui est très, très ancrée dans le territoire, puisqu'en fait, ce n'est pas des œuvres qui sont parachutées, elles sont chaque fois fabriquées à partir des matériaux qui sont présents sur le territoire et des savoir-faire qui sont présents. Donc, elles peuvent être en bois, en terre aussi, en pierre, et la pierre du territoire. Hein. Donc, parfois, c'est de la pierre volcanique quand on est au cœur de l'Auvergne, en Haute-Loire, à Querrières, ou de la pierre calcaire quand on est à Gréalou, sur les Causses du Quercy. Voilà. Et c'est un point d'étape quand je dis 12, hein, puisqu'on travaille déjà pour au moins 3 à 4 autres œuvres d'art refuge aujourd'hui, et qui véritablement, du coup, jalonneront bientôt les 3 régions traversées par le GR65 et le chemin de Compostelle, à savoir la région Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, ça, c'est un des projets, effectivement, qui, ces 10 dernières années, a pris énormément de place pour la structure Derrière le Hublot, et c'est vraiment le projet qui fait émerger Derrière le Hublot au plan national, en fait.
Et qui écrit une histoire, hein, aussi.
Ben, qui écrit une histoire, parce qu'en fait, c'est des œuvres qui sont pérennes.
Ouais.
Donc elles s'inscrivent dans le temps long, évidemment, mais elles s'inscrivent dans les paysages, et elles sont des points de repère pour les habitants de tous ces villages qui accueillent ces œuvres, c'est-à-dire qui en sont aussi fiers. On inaugure bientôt un multiservice, épicerie, bar, etc. sur Gréalou, avec une référence dans le logo à Super Cairo. Donc, c'est-à-dire, ces œuvres, elles entrent aussi dans l'imaginaire des villages qui les accueillent. Donc, c'est une grande joie de voir ça.
Il y a un collectage de mémoire, il y a un livre d'or qui est laissé, il y a quelque chose, ça me fait penser au veilleur de Capdenac, où on laisse un peu son empreinte, l'empreinte de son passage.
Alors dans certaines œuvres, oui, dans d'autres, non. Mm-hmm. En fait, c'est pas systématique, c'est les artistes qui ont choisi s'ils laissaient un livre d'or ou pas. Quand il y en a un vrai, ce qu'on voit, c'est que très rapidement, ils sont pleins et qu'on les renouvelle. Mm-hmm. Et donc oui, on a cette mémoire, et ce que disent souvent les gens qui viennent là, et on s'aperçoit qu'ils sont nombreux à y dormir, mais c'est leur grande joie un moment de constater qu'un territoire les accueille et qu'en fait ils trouvent un lieu qui est fait pour eux, qui est fait pour... Attention, les gens qui écrivent dedans et qui dorment dedans ne sont pas nécessairement des marcheurs sur le chemin de Compostelle, c'est aussi des gens qui habitent le territoire et qui des fois y vont Et la grande joie pour eux, c'est de découvrir qu'il y a des espaces d'accueil et d'hospitalité, en fait. Voilà.
Idée de génie, patrimoine, paysage et création contemporaine, et avec les matériaux du territoire, fenêtres sur le paysage, on trouve sur le site de derrière le hublot le plan. Il existe des outils pour suivre le chemin,
des cartes, des petits films, des cartographies très précises. C'est très facile.
Autre pilier de l'association, le service d'art à domicile, peut-être plus discret, moins rendu public, mais en tout cas c'est aussi un bel ouvrage porté par l'association et dont vous êtes à l'initiative, Fred Sancerre, une nouvelle fois.
Ouais, le service d'art à domicile, c'est l'idée d'aller avec les artistes sur le circuit des aides à domicile et des auxiliaires de vie. Et donc, c'est finalement un trio qui s'invente entre un ou une artiste, un ou une auxiliaire de vie ou aide à domicile, et on va chez quelqu'un qui est bénéficiaire, comme on dit dans le langage de l'aide à domicile, et de la présence des aides à domicile et auxiliaires de vie. Et en fait, ils s'inventent là une petite performance à chaque fois, un moment très poétique, dans l'intimité. Donc c'est vrai que ce projet-là est particulièrement invisible, puisque chaque fois qu'il se développe, il s'adresse à quelques personnes qui désirent l'accueillir, mais pour lesquelles c'est très important, parce qu'en fait, ça vient rompre le quotidien, ça vient rompre souvent de l'isolement, c'est-à-dire que les personnes chez qui nous allons, finalement, dans leur journée, parfois, elles vont voir qu'une personne, voire personne, justement. Et donc, là, elles ont l'occasion d'être émues, de rire, d'être émues aux larmes parfois, d'être touchées par une présence artistique. Donc, c'est extrêmement fort ce qui se passe. C'est fort pour les bénéficiaires de l'aide à domicile. C'est fort pour les personnes qui sont aides à domicile et auxiliaires de vie, parce que du coup, elles se trouvent être les médiateurs ou les médiatrices de ces projets. Et donc extrêmement valorisées dans leur travail, parce qu'elles ont des savoirs qui sont immenses, ces personnes-là, une richesse immense. Leur métier est souvent invisibilisé ou méconnu, et qu'en tout cas là, elles trouvent un vrai espace de contentement et de reconnaissance. Et puis c'est une grande joie pour les personnes chez qui on va.
Bien sûr.
Parce que là, ça vient quand même casser son quotidien, quoi.
Et un projet qui a émergé, c'était une réflexion autour du prendre soin. On était, c'est l'après-Covid, hein, je crois.
C'est l'après-Covid, ouais. C'est l'idée effectivement de faire quelque chose autour du soin. Et ce projet, notre plaisir est complet, parce qu'en fait, ce projet se poursuit, mais en plus, il fait des petits. C'est-à-dire
il est décliné.
Il est décliné et on le développe ailleurs. On va le démarrer maintenant sur la communauté de communes Cantal-Lautruyère vers Espalion. On discutait de le poursuivre sur ce territoire encore, dans d'autres communes. Donc c'est formidable. Voilà. Mais parce que tout le monde voit le sens qu'il y a à aller justement rompre cet isolement des personnes âgées et accompagner du mieux possible aussi les auxiliaires de vie dans leur travail.
Derrière le hublot, le site internet pour se renseigner, se rapprocher des actions, des animations proposées par l'association. La prochaine en date est sur notre territoire, c'est là, sur cette fin de semaine, Mortel, jus de mortel, par la compagnie, la présidente AU19, l'association Derrière le hublot qui nous revient après The Wall, la baleine, le cachalot. Il y avait aussi Yannick Jolin, ça c'était à Najac, à Salle Courbatier du théâtre politique, le cirque sous chapiteau, ça c'était décembre, des moments d'exception. On est ravis de revoir Derrière l'hublot sur le territoire avec cette proposition à la Derrière l'hublot, Mortel, jus de mortel, un spectacle hors norme avec le mur de la mort. Vous redonnez vie, ou plutôt la compagnie redonne vie à cette attraction. Ça va pétarader pendant 3 jours à Villefranche-de-Rouergue, place Lescure.
Alors le mur de la mort, c'est une vieille attraction foraine, hein, puisque c'est dans certains aux États-Unis notamment, ils avaient fait tourner des voitures dans des murs de la mort, donc et pas seulement des motos. Donc c'est une vieille attraction foraine dans laquelle effectivement les motos vont tourner à la verticale dans un gros cylindre. En fait, ce mur de la mort, il est classé au patrimoine historique, c'est un monument historique, et une compagnie a eu le désir de le reprendre et d'en faire un spectacle aujourd'hui finalement contemporain, c'est-à-dire partager. Il y a vraiment l'expérience avec les motos qui tournent, etc. Donc on est vraiment dans le cylindre. On voit le spectacle depuis les hauteurs du cylindre. On vibre, parce que le cylindre, quand les motos tournent, il tremble. Voilà, on risque rien, mais je veux dire, on sent le spectacle dans notre chair. C'est-à-dire que Il y a des spectacles dans lesquels, quand on y va, on sait qu'on va trembler, qu'on va être ému, qu'on va avoir un moment des frissons. C'est le cas dans celui-ci. C'est-à-dire que quand les motos tournent, il y a une odeur, parce que ça sent l'essence. Donc, voilà. Mais il y a un bruit effroyable. Mais il y a aussi tout qui vibre, quoi. Et donc, c'est très singulier, en fait. C'est très, très, très particulier. Et en même temps, ça repose sur une histoire, l'histoire de ce groupe qui fait tourner ce mur de la mort. Et puis, ça repose aussi sur un exploit, parce qu'il y a quand même exploit comme au cirque. C'est-à-dire que là, on se joue sous nos yeux quand même quelque chose qui est extrêmement dangereux pour les acrobates et les comédiens. Mais voilà, donc il y a toute l'essence du cirque à un moment, dans ce qu'il a de plus vif et violent à des moments. Voilà. Et c'est très, très... c'est drôle, c'est bien. Moi, j'adore ce genre d'attraction, en fait. Ça me plaît beaucoup qu'on puisse accueillir ça avec Derrière l'Hublot. Voilà.
29, 30 et 31 mai, là, c'est sur cette fin de semaine. Il y a à peu près 3 à 4 représentations sur ces différents jours. Il faut faire très, très vite parce que la jauge est limitée. Donc, c'est pour ça que vous avez multiplié aussi le nombre de séances. La billetterie, c'est sur le site Derrière l'Hublot. Il y a un autre moyen. C'est aussi en partenariat avec la mairie de Villefranche-d'Orouergue qui vous avait aussi accompagné sur la baleine. Là, on est dans le prolongement aussi d'un partenariat qui s'installe avec la commune de Villefranche. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là sur Mortel, Jute de Mortel, c'est le collectif Mur de la Mort, hein, c'est ça et...
Oui, et ce que je peux rajouter dessus, c'est que vraisemblablement, il y aura plus beaucoup d'occasions de voir des performances comme celle-ci, en fait. C'est-à-dire qu'il en existe quasiment plus. C'est une des très rares expressions contemporaines autour du Mur de la Mort. Je pense que ça dit un jour ces formats-là vont disparaître, quoi. Enfin, voilà. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut voir cette œuvre-là parce que c'est une œuvre qui a vocation à s'inscrire dans le patrimoine, un moment du spectacle et de l'attraction foraine au sens le plus noble du terme, quoi. Voilà.
Il y en a trois structures qui tournent comme ça dans le monde. Je crois que c'est effectivement ce qui fait aussi la spécificité, la rareté de la proposition. Les 29, 30 et 31 mai à Villefranche-d'Orouergue, place Lescure, pour tout ce qui est droit d'entrée, direction, le site.
Oui, puis une billetterie sur place aussi. Et puis, effectivement, il y a 11 représentations. Il y a 100 personnes par représentation, mais ça va aller très vite parce que c'est une jauge très limitée. Puis, quand on sait que ces attractions foraines, quand elles démarrent, ben, ça se dit et ça se réserve très vite après. Donc voilà, il faut venir.
Un petit peu comme
venir.
Le cirque Décrochez-moi ça. Hein, et d'ailleurs, c'est au même lieu, même endroit pour ce spectacle proposé par Derrière l'Hublot, là, sur cette fin de semaine. Autre grand rendez-vous, ben, c'est la Grande Confluence, le festival au Grand Air. Ça, c'est un petit peu nouveau aussi dans la programmation. C'est un partenariat, à ce que j'ai cru comprendre, avec une autre structure qui vous a appelé pour travailler sur ce rendez-vous.
Bah, c'est une chance folle, mais qui est sûrement induite par le travail et les années de travail qu'on avait menées avec toute l'équipe et toute l'association. C'est une association qui a créé ce festival qui s'appelle La Grande Confluence. L'association s'appelle Les Cieux du Battu. Elle est dans le nord de l'Aveyron, dans le Carladaise, et en même temps avec un pied sur la communauté de communes Cantal-Lot-Truyère, et donc cette commune d'Entraigues-sur-Truyère notamment, et qui nous a appelé il y a un an et demi, deux ans de ça, pour nous dire que, considérant les difficultés que nous avions à ce moment-là, bah, ils nous tendaient la main en disant bah, « Nous, on a un festival, on aimerait bien que vous veniez le faire avec nous ». Et voilà, donc on a été sur ce festival l'an dernier, la Grande Confluence, un peu comme des observateurs, donner un petit coup de main, participer, accueillir le public, etc. Et l'idée, c'était que cette année, on se mêle complètement. Et cette invitation, c'était pour qu'on se mêle véritablement à la programmation et à l'organisation du festival. Donc on ira avec avec toute l'équipe, on a participé. C'est vraiment une coprogrammation entre Les Cieux du Battu et Derrière l'Hublot. C'est une co-organisation et les bénévoles de Les Cieux du Battu seront rejoints cette année par quelques bénévoles historiques de Derrière l'Hublot qui retrouvent là le plaisir de se retrouver pendant 3, 4 jours, 5 jours pour être bénévoles sur un événement. Donc c'est une grande joie. Donc on était pas loin de la rivière Lot quand on était à Cap de Nac. On remonte un peu plus haut. Et on remonte du coup, pourquoi ça s'appelle la Grande Confluence ? Parce que on est exactement sur le site du confluent entre la Truyère et le Lot. La Truyère se jetant dans le Lot à Entraigues-sur-Truyère. Voilà.
Du 2 au 5 juillet, Entraigues-sur-Truyère, festival au Grand Air, la Grande Confluence. Et vous allez boucler cette première partie de saison avec la Jurassienne de réparation. C'est du théâtre de groupe. C'est pas loin là de chez nous, à Livignac-le-Haut. Ça s'est programmé pour le 9 juillet.
Ben on pourrait presque dire que la Jurassienne est un spectacle qui trouve sa place dans les 30 ans de Derrière l'Hublot. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais c'est un spectacle qu'on a déjà accueilli en 2004, hein, qui fera cette année sa dernière tournée. Le spectacle s'arrêtera après. C'est un des spectacles qui a considérablement marqué les 20-25 dernières années du théâtre de rue en France. C'est un spectacle qui est à la fois extrêmement touchant et qui s'appuie, et je ne le révélerai pas, mais sur une performance qui est totalement inattendue quand on voit le spectacle et qui est à la fois touchante et en même temps on se dit tiens, c'est quand même fou, on a l'impression presque d'être au cirque sans qu'il y ait un événement qui tienne lieu de l'histoire et de l'imaginaire du cirque. Mais il se passe quelque chose dans le spectacle qui a rendu pour tous les gens qui ont vu ce spectacle une fois le spectacle inoubliable, en fait. Et donc, on a voulu le programmer une dernière fois. C'est leur dernière tournée. Nous, on estime qu'on a la chance de les accueillir, du coup. Voilà. Et alors, généralement, le public qui les a vus une fois, on sait déjà qu'ils reviennent, on a plein de gens qui nous disent on veut absolument être là et le revoir. Voilà.
Le 9 juillet, à Livignac-le-Haut, parking du gymnase à 20h30. Autre aspect du travail de l'association, c'est aussi peut-être plus invisible pour le public, c'est le soutien à la création et tout le travail en direction et l'accueil des artistes. Ça peut être aussi l'aspect édition et puis les artistes invités avec Chemin Public aussi.
C'est assez indispensable, c'est-à-dire que pour que des spectacles soient vus, il faut les aider à la création. Nous, souvent, les aides à la création prennent la couleur de projets qui s'inscrivent sur des territoires, c'est-à-dire que des artistes travaillent sur un territoire pour des œuvres qui vont voir le jour sur ce territoire spécifiquement. Voilà. C'est le cas avec Julie Desprairies, par exemple. C'est le cas avec la compagnie Ola, qui travaille au centre pénitentiaire aussi, et la maison d'arrêt à Rodez. Enfin voilà, donc c'est chaque fois des projets qui sont cousus humains, en fait, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reproductibles dans un autre endroit à l'identique. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est aussi important pour que des artistes parlent du territoire sur lequel nous vivons, mais c'est aussi important pour que des artistes puissent vivre de leur création et qu'on les accompagne, quoi. C'est notre rôle aussi à Derrière l'Hublot, ça.
On comprend, Fred Sancerre, pourquoi le projet de Derrière l'Hublot continue à vous enthousiasmer. Peut-être pour conclure, là, jusqu'au mois de juillet, on a survolé les propositions. Septembre, octobre, vous l'avez évoqué, les 30 ans de l'association et peut-être aussi des événements sur Villefranche-de-Rouergue autour de l'alimentation, mais pas que, peut-être mêlé avec ces 30 ans d'activité.
Oui, on a été sollicité pour imaginer différents projets autour du pastoralisme. 2026 est l'année mondiale du pastoralisme. C'est une année qui a été déclenchée par la Mongolie, qui veut inscrire au patrimoine mondial une technique qui leur est propre de pastoralisme. Et donc, ils ont déclenché cette année mondiale à l'UNESCO, du coup. Et donc, dans le cadre de cette année mondiale sur le pastoralisme, on a plusieurs projets qui vont se développer. Un à l'échelle de tout le Massif central, où nous sommes à la manœuvre, du coup, et dont une action se développera dans l'Aveyron, sur la commune du Cayrol. Le Cayrol, c'est aux portes de la Yole, hein, voilà. Et une à Villefranche-de-Rouergue, effectivement, autour de la nourriture. L'idée étant que le pastoralisme est une... On avait envie de voir qu'est-ce qui se passe avec les bêtes une fois qu'elles ont été dans les pâturages. Mmh. Et du coup, de traiter la question de la transformation, en fait. Voilà. Et donc, on prend appui sur des chefs et des chefs qui sont sur le territoire, en tout cas de l'Aveyron, pour travailler avec eux et elles. Et on prend appui sur la très grande diversité et richesse sur ce territoire de Villefranche, avec énormément d'établissements scolaires, dont des formations sont spécifiquement dédiées à la question de la nourriture. Donc on va travailler et on travaille avec eux. Et ça, va donner lieu à un très gros événement autour de la nourriture les 13, 14 et 15 novembre à Villefranche-Rouergue.
C'est voilà. Calé et on aura l'occasion d'en reparler sur l'antenne. Le programme de Derrière l'Hublot est à disposition et encore valable jusqu'au mois de juillet avec tous les rendez-vous évoqués derrière le hublot au grand air. Merci Daniel Buren. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas qu'ailleurs qui se passe des choses, c'est aussi sur nos territoires. On a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, à Paris, à Marseille, à Lyon. Il se passe aussi des choses sur d'autres territoires grâce à vous, Fred, et à l'association Derrière l'Hublot. C'était ça l'idée du visuel?
Le visuel, c'était de rebondir sur cette photo avec cet enrubanage où on voit les deux couleurs, blanche et noire, et dispersées comme ça dans un champ. Ça fait penser aux colonnes de Buren au Palais Royal. Et du coup, c'était une petite anecdote comme ça de dire ben, merci Daniel Buren de nous laisser aussi à nous autres, dans la ruralité la plus profonde, la liberté de pouvoir voir vos œuvres qui n'en sont pas, puisqu'en fait, là, c'est pas du tout, il y est pour rien, le pauvre Daniel Buren, et grand respect pour son travail. Et puis, c'était un clin d'œil aussi au printemps de la ruralité, qui avait été déclenché par Rachida Dati, qui finalement, peut-être, a laissé quelques queues de comètes, mais pas grand-chose. Les queues de comètes, elles disparaissent à un moment. Et voilà, c'était un clin d'œil à ce printemps de la ruralité qui a été un joli... peut-être un moment manqué aussi, voilà, pour repenser et revisiter la présence des artistes dans le milieu rural.
Une photo qui vous appartient ou pas?
Ouais, c'est une photo que j'avais faite, ça, sur la route.
Ça sent le ricochet, cette histoire. Merci Fred Sancerre, directeur de Derrière le Hublot. À très bientôt dans ces studios et rendez-vous là sur cette fin de semaine à Villefranche, place Lescure pour Le Mur de la Mort. Merci.
CFM Villefranche, le mag.